Bonsoir à tous. Bonsoir Christine Jordis, merci d'être avec nous.
Merci de m'avoir invitée surtout.
Ce soir, on va parler de votre livre « Tu n'as pas de cœur » aux éditions Albin Michel. Dans « Une vie pour l'impossible », un précédent roman, vous évoquiez un personnage qui se révèle être votre père, sans que vous le nommiez toutefois ainsi. Et vous évoquiez en fait ses actions, ses exploits, cette vie incroyable qu'il a eue. Et dans « Tu n'as pas de cœur », vous abordez en fait les figures plutôt féminines de votre vie, votre grand-mère et surtout votre mère. Tout cela mis en perspective avec la vision, avec votre vision d'enfant. Je voulais savoir en fait pourquoi.
Est-ce que je peux d'abord leur dire vaguement qui je suis ? C'est-à-dire, je me considère comme un écrivain, bien que ce mot puisse paraître pompeux, c'est-à-dire que j'écris depuis de longues années. Je suis angliciste au départ, c'est-à-dire spécialiste, bien que j'aime pas ce mot, de littérature anglaise. J'ai travaillé dans l'enseignement, j'ai enseigné à Savigny-sur-Orge et j'aimais mes élèves. Ils étaient pas toujours faciles. À l'époque, on faisait ce qu'on appelait des classes poubelles. Ils s'appelaient les classes poubelles. C'était les classes où on mettait tous les éléments difficiles et défavorisés. Je vous dis pas. Enfin, en tout cas, c'était une belle expérience. Mais je ne veux pas trop traîner là-dessus. Je suis ensuite passée au British Council, ce sont les services culturels anglais, où je suis devenue Literature Officer, ce qui pourrait vous faire croire que j'étais un officier de la littérature, que je me battais pour elle, et c'est vrai. Je me battais pour elle, mais c'est simplement un grade, hein, ça ne veut rien dire d'autre. Et puis Gallimard, au bout de 12 ans, c'était en 1991 et je n'étais pas dans ma prime jeunesse, m'a fait signe pour que je rentre dans l'édition, alors que je n'y connaissais rien. Et je remplaçais Michel Mort, qui s'était fait un nom sérieux, en choisissant les auteurs de langue anglaise. C'est-à-dire que j'avais sous ma gouverne et le pouvoir de décision intégrale pour l'Angleterre, les États-Unis, l'Irlande, évidemment, l'Australie, je ne sais pas, nommer d'autres pays qui parlent anglais. Mais vous
Nouvelle-Zélande,
les aurez.
L'Afrique du Sud.
L'Inde, évidemment. L'Inde et la Nouvelle-Zélande. Voilà. Et puis, ce Gallimard, j'y suis restée 20 ans. 20 ans. Et au bout de 20 ans, j'ai démissionné. Assez fière de moi. Parce qu'on ne démissionne pas de Gallimard. On part les pieds devant, en général. C'est une maison auquel les gens sont très attachés. Et, mais c'était trop lourd. J'en pouvais plus à la fin. C'était vraiment très lourd, très angoissant, vous voyez, cette nécessité de réussir. Et puis, je suis rentrée là, Grasset, les frères ennemis m'ont fait signe. Et c'est l'époque où j'ai accepté donc, de travailler pour le comité de lecture de Grasset. C'est aussi l'époque où j'ai publié « Une vie pour l'impossible ». Roman dont vous n'avez pas entendu parler, j'imagine, mais qui me tient particulièrement à cœur et dans lequel je crois avoir mis tout ce que je pouvais donner et dont je suis fière. Parce qu'il raconte la vie d'un homme qui s'est fait une légende, mais Oscar Wilde disait que la légende était plus vraie que la vérité. Il s'est fait une légende héroïque. Il a perdu sa mère à 4 ans. Il a été envoyé en tant que militaire pour le protectorat syrien, commandé à des druzes dans le désert de Lave de Syrie. Il avait 20 ans. Et là, je donne des documents de ces carnets qui sont restés, des photos, je ne les donne pas, mais je les ai vues. Et il y a, vous savez, en Syrie, à Shaaba, plus maintenant, hélas, mais il y avait des mares de ruissellement romaines. Et là, comme il avait pris la méthode de natation de Johnny Weissmuller, très connu à l'époque, il a appris à ses druzes à nager, ces druzes qui ne s'étaient jamais dévêtues et qui était voilé jusque-là. Enfin, bref, c'est vous dire, c'était vraiment un aventurier. Je ne dis pas que c'était mon père dans ce livre, parce que je ne voulais pas orienter sur la relation très amoureuse, quand même, fille-père. Je voulais lui donner toute son ampleur. Et donc, cet homme a été un héros de guerre, il a fait la guerre d'Italie, il a planté le premier... le drapeau français sur le mont Feto, en brisant les lignes allemandes. Et il est rentré, et je vais raconter, c'est là que ça joint ce dernier roman, si on veut. Il va rentrer après cette guerre, et ayant donné sa démission de l'armée, il va rentrer, rejoindre sa famille à Tours. Donc, ce dernier livre que je viens de publier correspond à l'aspect maternel de l'histoire. Et de cet aspect maternel, j'avais du mal à parler. Je l'ai écrit pendant 10 ans, j'y suis revenue, j'ai décidé de ne pas le publier. Mon éditeur chez Albin Michel m'a dit « Mais si, vas-y, il faut, tu vas voir, ça va être un bon livre, etc. » Donc, j'ai travaillé, jusqu'à acquérir la distance voulue vis-à-vis de cette enfance, la mienne, qui n'a pas été heureuse. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une enfance heureuse, c'est une enfance d'après-guerre, à Tours, dans une ville bombardée, sous le joug de la mère et en compagnie des grands-parents. Tout le monde cohabitait, les 3 générations après-guerre, faute d'argent, étaient réunies dans un petit immeuble du boulevard Horteloup. Le héros est rentré de la guerre, mais pas vraiment rentré, il avait la tête ailleurs et ça se comprend. Et puis il aimait l'aventure, il aimait les grands espaces, il n'aimait pas la vie conjugale ni étroite. Il n'était pas fait pour ça. Il l'a subi pendant bien des années pourtant. Et donc, cette jeune femme, avec ses 2 petits-enfants, est rentrée d'Algérie en 1945, c'est-à-dire après les massacres de Sétif. Vous avez entendu parler des massacres de Sétif ? Quelques-uns. Mais vous savez, c'est curieux. Les massacres de Sétif, qui ont été une chose terrible, puisque à ce moment-là, les Algériens voulaient leur indépendance. Quand les Français sont revenus du front, ils ont réprimé tous azimuts, et ça a été des tueries affreuses. Mais auparavant, les Européens ont eu très peur, dont ma mère, qui était seule, boulevard de Constantine, boulevard Carnot à Constantine, plus exactement, donc à côté de Sétif, et qui s'est barricadée chez elle, le pistolet à la main, pour défendre ses 2 petits gosses. Elle était seule. Et donc, elle en a tiré l'idée qu'elle était un chef. Et elle a gardé cette idée qu'elle a appliquée dans la suite de sa vie. Voilà. Je ne veux pas parler toute seule indéfiniment. Je voulais simplement vous présenter le contexte social dans lequel tout ça s'est déroulé. Parce qu'évidemment, j'aurais été tentée de procéder à une mise en accusation pour une femme qui a été très, très dure avec ses enfants. L'époque le voulait, on avait des éducations strictes. Mais là, vous avez en plus les circonstances. Vous avez l'après-guerre, par beaucoup, beaucoup d'argent, les 3 générations ensemble, le héros qui rentre et qui ne l'aime plus vraiment, et puis le fait aussi qu'elle n'était pas faite vraiment pour cette vie. Vous savez, ce n'était pas encore l'époque de Simone de Beauvoir et de l'émancipation des femmes. Mais déjà, ça travaillait. Alors, elle appliquait les valeurs bourgeoises du 19e strictement, comme il le fallait, comme on le voulait à l'époque, et c'était « il faut faire ci, il ne faut pas faire ça ». Si on fait ça et que ce n'est pas permis, paf, on vous tape dessus. Enfin bon, c'était le camp, dira-t-on, qui dominait la vie provinciale à l'époque. On a fait un tour complet depuis lors. Hein. Mais enfin, moi, j'ai connu ça, si vous voulez. Et je ne vais pas continuer, mais je ne dirais pas que c'était...
C'est très intéressant. Hein,
je ne sais pas si c'est intéressant. Ce que je ne dirais pas, c'est que c'était bien, parce que j'en ai beaucoup souffert. Et que je me suis sentie étouffée, écrasée. Mais c'était une maison un peu particulière aussi, il faut dire. Il y avait des circonstances qui aggravaient la situation. Mais j'ai essayé quand même de comprendre cette femme et de ne pas faire un règlement de compte. De toute façon, les comptes, on ne les règle jamais, n'est-ce pas ? On ne règle jamais vraiment ses comptes. Donc moi, ce que j'ai voulu, c'était comprendre et donner à comprendre. Mais maintenant, vous voyez... On est passé, le ressort est passé à l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'enfant roi. Souvent, vous avez des enfants, ils vous cassent les oreilles dans le train ou ailleurs. Hein. C'est un peu fatigant. Et c'est l'idée, qui est très conformiste d'une certaine façon, que l'individu doit s'épanouir. La valeur actuelle, c'est l'épanouissement de l'individu. Moi, de mon temps, pas question. Tu n'as pas d'importance, tu ne comptes pas, pense aux autres, etc. Voyez, et l'individu était soumis au groupe, le groupe, c'était le milieu social, la bourgeoisie, dans la société de l'époque, et on taillait les enfants pour qu'ils fassent de bons citoyens, de bons bourgeois, suivant les codes de l'époque. Je ne dis pas que ce soit bien, je dis simplement, si vous regardez de façon anachronique mon enfance, vous vous direz, c'est affreux, c'est monstrueux. Mais si ma mère regardait l'éducation actuelle, elle se dirait, c'est affreux, c'est monstrueux, ils ont perdu la tête. Ça ne peut pas donner une société correcte. Alors vous voyez, il n'y a pas de vérité là-dedans. Il y a simplement un ajustement que chacun doit faire. Et c'est ce que j'essaye, sans écrire un essai, hein, mais à travers les anecdotes dures, parfois, que je raconte dans ce livre, c'est tout de même la moralité que j'essaie de tirer. Mais je vais laisser Helga me poser des questions parce que je ne veux pas trop parler.
Non, mais justement, enfin, vous, sur l'enfance qui n'est pas heureuse, vous le dites déjà. Moi, j'ai relevé déjà dès la page 22 une phrase où vous dites « On a beau être un enfant, on n'est pas joyeux à chaque instant. » D'entrée, on sait qu'on va avoir affaire à un livre où l'enfance n'est pas forcément mise en assassinat, mais qui, en tout cas, va être assez démontée. Et là, ce que vous dites sur votre mère qui regarderait une enfance actuelle, moi, par exemple, c'est vrai que votre enfant, j'ai dit « Oh, c'est pas facile, quoi. » Enfin, voilà. Il y a plein d'anecdotes qui sont très, très dures, quoi. Est-ce que c'était difficile de raconter tout ça ?
Oui. Je vous l'ai dit, ça m'a pris beaucoup de temps d'écrire ce livre et d'oser le publier et surtout d'en parler, parce que c'est un livre dont le registre est intime et pas glorieux. C'est la vie de tous les jours dans une maison, dans un foyer qui se détruit. Beaucoup de gens vivent ça, mais moi, j'avais pas tellement envie d'en parler au départ. Mais je crois tout de même que quand on arrive à un certain stade de la vie, c'est-à-dire quand on a parcouru plein d'étapes différentes, il est nécessaire, on ne peut que se retourner sur l'enfance. On ne peut pas vraiment l'oublier, l'enfance, vous voyez. Et si on veut comprendre ce qu'on est devenu, les efforts qu'on a faits, le travail sur soi, comment on a réussi parfois, à partir d'un début difficile, à faire un mieux. Et moi, je suis très contente de ma vie maintenant. Grosso modo, j'en suis quand même contente. Eh bien, je pense qu'on arrive à comprendre le dessin, le tracé d'une vie, à partir de l'enfance. C'est ce que j'ai essayé de faire. L'autre jour, c'était curieux parce que j'étais à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, vous savez. Il y avait une bonne salle, bien garnie, très chaleureuse. Et puis à la fin, j'explique tout ça, et puis beaucoup de choses encore. Et il y a une dame qui est venue me dire « Mais pourquoi vous ne l'avez pas oublié, votre enfance ?» Et je me suis dit « Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Il y a plein de gens qui oublient leur enfance. » Qui veulent oublier leur enfance si elle n'est pas très heureuse, qui veulent s'en souvenir si elle a été heureuse. Mais je connais aussi beaucoup de gens qui, sur le coup de 40 ou 60 ans, tout à coup ont des troubles terribles parce qu'ils ne se sont pas interrogés sur leur enfance. Voyez, je pense que là, il y a comme une petite boîte démoniaque, ou très heureuse, hein, mais où il y a plein de choses enfermées qui peuvent nous parler. Et moi, j'ai essayé de faire parler ces choses malheureuses. Qui n'ont plus d'existence. Je dis la petite fille, je me sens plus aucun rapport avec elle. D'ailleurs, j'emploie le elle.
La plupart du temps. Il y a toujours la petite fille quasiment. C'est pour ça que moi ça m'a étonné cette distance en fait que vous mettez tout de suite avec cette petite fille.
L'illusion de continuité. On a l'illusion que le temps est régulier et qui réunit notre naissance à nos fins dernières. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, cette petite fille, je ne dis pas du tout que je l'ai oubliée, mais je ne suis plus cette petite fille, fort heureusement. Je suis quelqu'un d'autre. Alors, d'abord, parce que ça m'était plus facile d'écrire des choses intimes, j'ai dit « elle », mais aussi parce qu'elle n'est plus moi. Et dans les périodes, pour des épisodes très, très forts, en général heureux d'ailleurs, parce que toute enfance a des épisodes très heureux, malgré tout, là, je dis « je », parce que c'est encore une chose que je peux ressentir et dont je peux parler sans être artificielle, vous voyez. Je crois qu'il y a en nous comme des moments qui sont conservés, des moments de traumatisme, heureux ou malheureux d'ailleurs, et là, ils vous reviennent et vous pouvez être sûr que c'est vrai. Tandis que le reste, vous l'avez sans doute transformé au passage, c'est revécu, c'est raconté. Enfin, moi, je me souviens, par exemple, quand j'avais 3 ans avant de quitter l'Afrique, que j'ai vu une grande pelouse verte avec des burnous blancs. Ils étaient étalés par terre et sans doute les gens dessous étaient morts. Mais j'ai aucune certitude que j'ai jamais vu ça. Qui vous dit que je ne l'ai pas inventé? Vous voyez, c'est tout ça, ce qu'on raconte, notre vision du passé est nécessairement recréée. Donc c'est pour ça que j'ai dit « elle ». Et puis aussi parce que ça me donnait, comme cette photo d'ailleurs, qui n'est plus du tout moi, fort heureusement, parce que je me dis, bah, ce livre, voilà, c'est quelqu'un d'autre. Ça me met à l'aise.
Non, et c'est vrai qu'il y a cette distance, en fait, elle permet aussi d'éviter, je trouve, la dureté, parce qu'il y a des moments qui sont très durs, des anecdotes où on est là, oh là là, mais c'est horrible. Et ça permet effectivement, de, quand on a fini le livre une bonne fois pour toutes, de se dire, cette distance, on n'est pas totalement relié à vous. Ça, nous aussi, en tant que lecteurs, ça soulage un petit peu, même si certaines
paraît,
choses
oui,
doivent
j'ai
être...
J'ai des amis qui m'ont dit qu'elles étaient obligées d'arrêter. Mais attention, je ne veux jamais tomber dans l'excès ni la sensation. Je ne suis pas Christine Angot. Hein. Je désapprouve pas du tout ce qu'elle fait, ne croyez pas. Mais j'avais aucune envie d'accrocher le lecteur à l'estomac en lui racontant des horreurs. Ce n'est pas du tout mon but. Mon but, c'est de trouver ma vérité à moi. Et donc, pour ça, il fallait quand même que je raconte quelques anecdotes telles que je m'en souviens. Et ce sont des anecdotes violentes, effectivement. Il y a des anecdotes dures.
Mais ça sent, ça, cette chose-là que vous dites, que vous ne voulez pas accrocher le lecteur, ça se sent totalement parce que vous... il y a beaucoup d'analyse, en fait. À chaque fois, derrière le moindre mot prononcé par votre mère ou par cette petite fille, il y a toujours l'analyse derrière de pourquoi il s'est passé ça, etc. Donc je pense que ça permet vraiment de respirer aussi, nous, en tant que lecteurs, quoi.
Oui, oui, j'ai pas voulu faire un essai, mais c'est vrai que j'ai tendance, comme disait Malraux, à essayer de transformer l'expérience en conscience. C'est-à-dire que j'ai réfléchi, effectivement, à tous ces épisodes, qu'est-ce qu'ils signifiaient, finalement. Quand on entendait des mots, ma mère était très forte sur les mots. Elle avait un vocabulaire et une rhétorique excellente. Elle n'était pourtant pas une femme éduquée, comme on appelle. À l'époque, ça ne se faisait pas. Vous savez, les femmes n'étaient pas nécessairement éduquées, ni... Elles n'avaient pas nécessairement de métier. Elle était née dans un milieu où les femmes ne travaillaient pas. Et donc, elle avait ce talent des mots. Et je cite certains mots qu'elle disait. Elle m'avait dit un jour, et je trouvais quand même que c'était une phrase bien balancée, vous en conviendrez. On ne me donnera jamais... On ne m'enlèvera jamais ce que j'ai en trop, comme on ne te donnera jamais ce qui te manque. Parce qu'elle se voyait comme quelqu'un comme ça, qui avait un talent formidable, qui pouvait faire du théâtre, qui pouvait raconter des tas de choses à l'intérieur de sa maisonnée. Et moi, comme j'étais toute ratatinée, forcément, un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas affronter un adulte. Il a peur et il a raison. Alors, il rentre à l'intérieur de lui. Et puis, il se met à aimer des objets tout petits qui lui appartiennent en propre, où il peut se réfugier. Une poupée, des petits meubles, des coquillages le long de la plage. Moi, c'était ça qui était à moi, vous voyez. Et donc, ce n'était pas les mots. Moi, j'étais dans le silence. J'ai d'ailleurs une amie qui m'a dit « on entend le silence des enfants ». Sauf quand on leur tapait dessus, là, ils criaient. Mais sinon, c'est vrai qu'il y avait cette forme de retrait, de repli sur soi, c'est comme ça qu'un enfant se préserve. Et ça laisse des habitudes hein, pour la suite. Je ne suis pas quelqu'un... Maintenant, je suis assez batailleuse. S'il faut affronter, j'affronte. Mais je ne dirais pas que je le cherche. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui cherchent ça, d'ailleurs.
J'ai trouvé ça très tendre, les moments où il y a cette petite fille qui a ses propres objets qui... font partie, je pense, des moments clés de l'enfance, d'avoir un objet précieux ou quelque chose comme ça, le rapport au conte de fées aussi. Enfin voilà, j'ai trouvé ça que c'était très bien donné, que justement ça permettait d'alléger en fait le récit, parce que le personnage de votre mère, c'est quand même quelqu'un qui est très dur, qui est très strict.
Elle est envahissante, hein. C'est quelqu'un aussi, qui a oui. Cette force de parole, cette force d'existence, des convictions très fortes, comme elle m'a dit un jour. Tu me reprocheras peut-être de savoir très bien ce que je voulais, si avec ça. C'est pas seulement savoir ce qu'on veut, hein, c'est vouloir l'imposer aux autres. Bon, et un enfant, donc, il prend l'habitude de s'attacher à des objets qu'il peut dissimuler. Vous savez, il y a ce roman de Bruce Chatwin, qui est un écrivain anglais dont vous avez peut-être entendu parler, un écrivain voyageur, qui a écrit en Patagonie. Et vous savez d'où ça vient, son amour de la Patagonie? Quand il était tout petit, dans une petite vitrine chez sa grand-mère, il y avait une petite peau de brontosaure. Il rêvait de cette petite peau de brontosaure et il avait demandé à sa grand-mère de la lui donner. Et elle disait toujours « plus tard, plus tard ». Enfin, elle est morte. Il a demandé à sa mère « et la peau de brontosaure, je peux l'avoir ?» Et la mère a dit « oh, tu sais, bon, je crois bien qu'on l'a achetée ». Eh bien, toute sa vie, cette peau de brontosaure où il avait mis tout son rêve l'a hanté, si bien qu'un jour, il est allé en Patagonie et qu'il a décrit, c'était là où on avait trouvé le brontosaure, il a décrit sa Patagonie à lui, et c'est un livre magnifique. Hein. Donc voilà, les enfants, moi je suis souvent frappée maintenant. Quand je vois des enfants, pour moi, sont des êtres vraiment mystérieux. Je me dis, qu'est-ce qui recèle à l'intérieur d'eux-mêmes? Qu'est-ce qu'il y a Pendant longtemps, ils me faisaient peur, parce que je pensais à ma propre enfance. Maintenant, ça n'est plus le cas. Maintenant, j'ai un petit-fils que je trouve absolument remarquable. Et qui est élevé. Alors là, je peux vous dire... C'est d'ailleurs curieux de voir cette... Moi, j'ai élevé mes enfants de façon très libérale. Parce que j'ai été élevée de façon horriblement stricte. Par ma mère. Mon père était occupé à d'autres choses. Et mon fils, il est relativement sévère. Hein. Il trouve qu'on a été trop libéraux. Que c'est pas bien que les enfants... Ils savent... doivent quand même savoir où s'arrêter. Alors l'autre jour, ce petit qui a 10 ans, je vous dis ça parce que j'en suis encore époustouflée, ce petit qui a 10 ans, moi j'ai mis 60 ans à arriver à ça, et peut-être davantage, il me dit « je suis à moi ». Je lui dis « ah bon, tu es à toi ?» Et il me répond « ni à mon père, ni à ma mère. Je suis à moi et fier de l'être ». Alors, je dis ça à des amis éditeurs qui m'ont dit bah, « Vous nous l'envoyez tout de suite, on signe avec lui, hein. Il n'y a pas de problème. » Fier de l'être, il est à lui, à 10 ans, vous rendez compte, il sait ce que c'est que d'être à soi. C'est quand même incroyable. Moi, je ne sais pas, même quand j'avais 20 ans, je ne savais pas qui j'étais, ni où j'étais, ni à qui j'appartenais. Je n'avais pas de contour, j'étais mal, vraiment mal. Sans... Je n'ai pas suivi de psychanalyse, ça se faisait guère dans ma famille, on n'en parlait pas. Mais savoir qui on est au milieu de tout ça, c'est pas facile. Hein. Donc, c'est la phrase de Montaigne, vous savez. J'ai dit à mon petit-fils, qui s'appelle Elias, je lui ai dit, mais tu vaux Montaigne, qui a dit, la plus grande chose au monde, c'est de savoir être à soi. Ça n'empêche pas qu'on peut se marier et tout le reste. Hein. Mais bon.
J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, là. Que votre fils vous disiez que vous étiez trop libéral. Il y a le personnage aussi dans le livre qui arrive beaucoup plus tard, qui est votre grand-mère.
Oui.
Et justement, en fait, la grand-mère et la mère sont en totale opposition. Votre Absolument. Grand-mère s'avère être une femme que vous qualifiez de légère, qui a collectionné les amants, qui est dans une sorte de libération, ou en tout cas qui n'a pas forcément ce rapport avec sa fille, alors que sa fille, votre mère, est extrêmement stricte. Donc il y a aussi ce côté... construction.
Elle a tout à fait raison, c'est très très bien vu, parce que la grand-mère, c'était une femme des années 20. Et vous savez, les années 20 étaient beaucoup plus libres que les années 50. C'était l'après-guerre, c'est une femme qui avait beaucoup d'argent, qui passait pour une des très belles femmes de France, et elle suivait son plaisir. Et moi, je me souviens, toute vieille qu'elle était, elle s'aspergeait de parfums, elle croisait les jambes très haut, elle tirait sur des jupons, etc. Elle essayait de séduire mon père, qui était un extrêmement bel homme, se fichait pas mal de sa fille. Bon, c'était une femme libre. Et pas libre parce qu'elle avait lu Simone de Beauvoir, qui n'existait pas à l'époque, mais libre parce qu'elle avait une formidable vitalité et qu'elle aimait être amoureuse et qu'elle aimait les hommes, qui n'ont jamais totalement satisfaite, il faut dire, mais quand même. Alors, elle emmenait sa petite fille dans les palaces où elle suivait ses amants, et la petite fille devait être morte de honte, parce que vous savez, les enfants, ils n'aiment pas qu'on les remarque. Ils aiment faire comme tout le monde. Et je pense que ça rejaillit sur cette atmosphère de valeurs interdites, c'est-à-dire que la sexualité n'existait pas. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience-là. On ne parlait pas de la sexualité. Le corps était divisé entre un haut dont on pouvait parler et un bas qui n'avait d'existence que pour être soigné ou tapé. Mais il n'y avait pas autre chose. Donc toutes les transformations qu'on vivait de notre corps, il n'en était jamais question. À partir du moment où vous ne nommez pas une chose, elle n'a pas de nom, donc elle n'existe pas. La sexualité était totalement barrée, totalement barrée. Et là, vous savez, après ce livre, que j'avais une certaine... Encore une fois, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de publier ce livre ? Et j'ai un ami, plus vieux que moi, professeur d'université remarquable, et qui m'a dit, voilà, Christine, pourquoi vous l'avez publié. Parce qu'il fallait vaincre les conformismes, vaincre les tabous, oser parler de la sexualité, se libérer, enfin être soi-même. Il s'est découvert, lui, sur le tard, homosexuel. Mais toute une vie, il a été étouffé avec le remords de cela. Donc, si vous voulez, cette chape de plomb qui pesait sur nous à l'époque, et dont moi, je me suis libérée, pas très vite d'ailleurs, mais dont je me suis libérée, ça, je crois que ça a été très dur pour bien des gens. Mais la sexualité, on n'en parlait pas. Ça donnait même des choses comiques, à la limite.
Non, c'est impressionnant, cette dichotomie en fait, qu'on trouve entre ces deux femmes. En plus, on est souvent sur votre mère, et votre grand-mère, elle arrive très tard dans le récit.
Oui,
et,
oui.
Même votre grand-mère vous dit, à vous-même, petite fille, elle vous dit, ta mère est une femme dure, mon petit. Oui, où là, oui. Il y a une espèce de révélation. On se dit bon bah au moins la petite fille est pas en train d'inventer.
Je suis pas toute seule. Quoi. C'est pas mon imagination. C'est vrai. Elle est dure. Ouais, elle était dure. Mais la vie l'avait rendue dure et elle était dure. Il y avait les deux. Et alors ma grand-mère, on n'en parlait pas parce que vous savez, c'était tellement scandaleux d'avoir eu des amants qu'on disait d'elle que c'était une grande malade. Alors nous petits, on se disait malade. Quoi, elle se transforme en loup-garou. Qu'est-ce qui se passe? Mais malade, ça voulait dire qu'elle avait eu une vie où le sexe avait compté. Mais ça, on ne le disait pas, vous voyez. Ça vous paraît extraordinaire, ce puritanisme. Mais à l'époque, en province, une femme qui, d'autre part, avait souffert de ce qu'était sa mère et d'une liberté non autorisée, pas licite, ça donnait tout ça, vous voyez. Et c'est cette espèce de chaudron de frustration que je mets en scène. Je ne crois pas l'analyser, mais je le mets en scène à travers des femmes. Trois femmes, destinées de trois femmes. Et je ne fais pas ça dans le féminisme, vous voyez. Je ne suis pas moi-même une féministe pure et dure. Hein. Je ne suis pas inscrite à MeToo ni à Balance ton porc. Mais malgré tout, je pense que si ma mère avait été née un peu plus tard, qu'elle avait pensé à gagner sa vie au lieu de vivre de l'argent de sa famille... et penser qu'elle pouvait faire autre chose que de suivre les dictats de la société bourgeoise de l'époque, elle aurait été moins malheureuse et elle aurait rendu ses enfants moins malheureux. Voyez. Donc, voilà, c'est... Tout sont trois femmes qui se sont rendues très malheureuses. C'est pas uniquement dû à l'époque, c'est dû à leur personnalité, évidemment. Mais, bon, il y a aussi... je voulais faire un témoignage sur l'époque. Une époque disparue, donc.
On sent ce témoignage et ce milieu bourgeois avec des valeurs que vous qualifiez aussi de poussiéreuses, en fait.
Poussiéreuses, oui.
En fait, on déterminait totalement la vie de votre grand-mère, celle de votre mère surtout, et qui l'a fait rejaillir sur vous, en fait, et sur l'enfant que
oui,
qu'on
oui.
trouve dans ce récit.
Oui, quoi. Oui, oui. Forcément. Forcément. La frustration, vous savez, beaucoup de gens sont frustrés. Beaucoup, beaucoup. Moi, parmi les écrivains aussi, quand ils n'ont pas le succès voulu, ils sont frustrés. Ça rejaillit toujours d'une façon ou d'une autre. Ça, la psychanalyse, qui a eu du bon, il faut le dire, nous a appris ça. Ça prend des chemins détournés, mais ça se venge quand même. Et il y a eu vengeance, là. Je crois vraiment qu'il y a eu vengeance. C'est... voilà. Vous voyez, moi, je suis toute prête à m'engager. On a interdit la fessée. Tout le monde a trouvé ça grotesque. Mais moi... Beaucoup de gens, tout au moins. Mais moi, je suis toute prête à m'engager pour qu'on ne touche pas aux enfants de façon violente. Parce que, bien sûr, si on est furieux, une claque peut partir. Mais le châtiment corporel tel qu'il était pratiqué, je trouve ça ignoble. S'attaquer à un plus faible que soi qui n'y peut rien, l'humilier, c'est ignoble. Ça, j'en suis vraiment sûre. Et je cite mes auteurs anglais, je cite Samuel Butler, enfin un certain nombre d'auteurs... qui eux-mêmes, à l'époque, étaient battus tous les jours ou au moins toutes les semaines. Vous voyez, ça se faisait. Qui aime bien, châtie bien. C'était légitime. Mais derrière cette légitimité, est-ce qu'il n'y avait pas du défoulement et de la perversité et du plaisir? Vous voyez, la psychanalyse nous a quand même ouvert les yeux là-dessus. C'est tout ça que je questionne, sans accuser personne. Mais tout de même, on ne pardonne pas si facilement, vous voyez.
Non, c'est vrai que ça, c'est très, c'est frappant dans le livre, cette façon en fait d'analyser la violence sur les enfants et qui est liée à la frustration de votre mère. Et en même temps, cette femme qui veut absolument tout contrôler, elle est dans une illusion perpétuelle en fait.
Elle est dans une illusion sur ce qu'elle est. C'est une femme qui aimait les mots et qui n'a jamais admis le mot échec. Son mariage, qui était un échec total, elle n'a jamais voulu que je lui dise que c'était un échec. Non, où vois-tu un échec? On est restés ensemble. C'est ça ce qui compte. Tout le monde a des problèmes. Évidemment, tout le monde a des problèmes. Mais quand même, l'échec, ça existe.
Mais personne ne divorce à l'époque, donc...
Mais on ne dit... Oui, ça ne se faisait pas. C'est ce que je disais, ça ne se faisait pas. On ne divorçait pas. Et alors, mon père, dont je n'ai pas fini de vous raconter l'histoire, mais c'est quand même... Ce qui m'a sauvée, c'est lui, c'est de rêver à travers lui. Mon père, à 60 ans, a tout quitté. Il a tout donné, il voulait se défaire de l'esclavage que représente la société, avec nos besoins, l'affluence, les dictats, le conformisme social dont nous sommes victimes. Il a voulu tout quitter, il est parti vivre au pôle Nord, au nord du cercle arctique, avec les Esquimaux inuits, à une époque où on en parlait moins de maintenant, parce qu'ils ne se suicidaient pas en masse. Et donc, il a vécu là-bas, pas pour faire une expédition simple, mais il a vécu là-bas, oui, auprès d'un noblat. Et il partait en traîne, il construisait les igloos. Et moi, quand je l'ai vu partir, je l'adorais, vous savez. Je me suis dit, c'est fini, je ne le verrai plus. C'était terrible, 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 terrible. Mais il avait tout donné, et il faisait ce sacrifice et il partait. Et il espérait... Trouver Dieu, c'était un homme très, très, très épris de quête spirituelle et de toute façon de quelque chose qu'il dépassait, qui n'était pas le matériel. Et il est revenu en pleine forme. La glace conserve, ça l'avait conservé. Il est revenu et moi j'enseignais à l'époque à Savigny-sur-Orge, comme je vous l'ai dit. Et dans le cadre des 10%, il est revenu en esquimau, c'est-à-dire qu'il avait mis sa peau de caribou, son fouet à traîne, qui mesurait, je ne sais pas, 20 mètres de long, des lunettes en os de baleine. Et il a débarqué dans la cour de récréation devant les petits élèves. Oh, ils étaient épatés. Ils m'ont dit, madame, c'est un vrai. Ils croyaient qu'il avait débarqué du train à Savigny-sur-Orge, venant tout droit d'Igloulik. Mais bon, et il a commencé à essayer de défendre les Esquimaux, à donner des conférences, etc. Et puis il est retourné vivre là-bas. Et un jour, il a fallu qu'il revienne. Il était vieux, quand même. Et là, en Touraine, il habitait en Touraine, dans une petite chaumière, tout seul. Il allait souvent dans un monastère bénédictin qui s'appelle Solem. Et Solem avait une implantation à Cœur Moussa, au Sénégal. Et comme il avait été banquier, parmi d'autres métiers, on l'a envoyé pour redresser les comptes et les finances. Il est parti au monastère de Cœur Moussa, où j'ai été le rejoindre, mais chez les bonnes sœurs, hein, pas chez les moines. Et il faisait des fromages au lait de zébu. Le zébu, c'est l'animal du lieu. Il a fait des fromages, et je l'ai retrouvé, mais déguisé carrément en missionnaire, avec une barbe touffue, des habits dégueulasses, des tongs aux pieds. Il s'y croyait, vraiment. Et il avait construit un laboratoire au sommet d'une colline, et je voyais ces tubes, c'était des tubes d'aspirine, de médicaments, qu'il avait percés de clous, et le fromage goûtait. Et figurez-vous qu'il les a vendus à Léopold Sédar Senghor. Ils ont atterri sur la table du président et ils ont gagné de l'argent. Et donc, il a vécu 5 ans comme ça dans un monastère au Sénégal. Et puis un jour, les cloches, il n'en pouvait plus. C'était je ne sais combien, 12 par jour. Il est revenu dans sa chaumière. Et là, il m'a dit, le couvercle du cercueil s'est rabattu sur moi, tout seul. Figurez-vous que c'était pas la fin. Moi, à Paris. Je ne rencontre pas d'amoureux tous les jours, et d'ailleurs tant mieux, parce que je suis mariée depuis 50 ans ou presque. Bon. Mais lui, il était sur son tronc d'arbre à regarder le coucher du soleil. Je raconte tout ça dans Une vie pour l'impossible, hein, qui est mon livre de bonheur. Il était sur son tronc d'arbre, passe une femme qui avait 40 ans, il en avait 81, la moitié de son âge, sculpteur, belle. C'était une aventurière, et lui aussi, vraiment, une artiste et une aventurière. Ils tombent amoureux. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Ni l'âge, ni la maladie, ni la situation sociale, ni l'endroit, tout ça n'y fait rien. Il a enfin divorcé à 81 ans. J'aurais tellement voulu qu'il divorce quand il en avait 40, vous voyez. Non, il a attendu 81 ans, il a divorcé, il est parti vivre avec elle. Et ils sont morts presque la main dans la main ensemble. C'est curieux, hein. C'est une vie extraordinaire. Donc c'est elle, cette vie, qui m'a inspirée. Mais je suis certainement injuste. Vous voyez, je parle de ma mère au sein d'un rapport qui a été très mauvais. D'ailleurs, je n'ai pas dit à mes frères que j'écrivais ce livre. Ils le découvriront peut-être en lisant les journaux. Mais je n'ai pas dit.
Vous ne l'avez pas dit à vos proches que...
Non, je n'ai rien dit du tout. Sauf à mon mari qui l'a lu parce qu'il aimait bien ma mère, qui l'aimait aussi. Mais c'est tout, je n'ai pas dit aux autres, je n'ai pas dit à ma famille. Parce que vous savez, on existe à l'intérieur d'un rapport. Moi, mon rapport à ma mère a été mauvais, vraiment mauvais. Mais je pense qu'avec mes frères, tout au moins l'un d'eux, ça a été différent. On existe, il n'y a pas de vérité absolue, chacun a sa vérité. Moi, là-dedans, je donne ma vérité. Mais je prétends qu'elle n'est pas tout à fait fausse, malgré tout.
Vous avez peur de vexer, de blesser quelqu'un si votre frère n'a pas la même vision ?
Je voudrais pas les heurter dans ce qu'ils ont de plus intime, eux aussi, et de plus fort, vous voyez. Et puis, ce ne sont pas des intellectuels. Moi, je ne viens pas d'un milieu intellectuel. Ce ne sont pas des écrivains. Moi, si je réfléchis sur mon enfance, c'est en tant qu'écrivain. C'est pour, à partir de quelque chose de moche, faire quelque chose de beau ou d'essayer. Mais eux, ce n'est pas le cas. Alors, je ne sais pas du tout s'ils aimeraient ça, vous voyez. Ils ont été contents du livre sur mon père, mais encore une fois, on n'a pas eu le même père. Moi, le mien a été un homme que j'adore toujours, que je trouve absolument merveilleux. Eux, ce n'est pas tout à fait le cas. Oui, donc c'est moins occupé d'eux que de moi, à vrai dire.
C'est là qu'on voit en fait le point de vue qui est essentiel. Vous n'avez pas du tout le même point de vue qu'eux.
C'est vrai, c'est vrai. Vous avez des enfants ?
Non.
Non ? Ah, et ben vous verrez. Vous verrez.
Non, mais je pense que je peux avoir ça. Ma sœur et moi, on n'a pas la même vision de notre
père. Exactement, mais exactement. C'est ce que je dis à mes frères. Mais arrêtez de m'en parler. On n'a pas eu la même mère ni le même père, zut. Et de temps en temps, ils essayent de me dire quelque chose. Mais je dis, je ne veux pas le savoir. Ne m'abîmez pas ce que j'ai. Et moi, je ne veux pas abîmer ce qu'ils ont, vous voyez. Il n'y a pas de vérité absolue là-dedans. Et quant à l'éducation des enfants, sur laquelle je m'interroge, parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, on est dans un conformisme aussi lourd et prégnant qu'autrefois, les valeurs étaient étouffantes. Ça ne s'exprime pas de la même façon. On n'a plus d'impression de liberté, mais il y a quand même une forme de conformisme. Eh bien, je ne sais pas comment élever des enfants. Moi, je ne veux pas me mêler de l'éducation de mon petit-fils. Je dis rien. Je me tais, je m'écrase. Je sais que mon fils m'engueulerait de toute façon, donc je ne dis rien. Mais un jour, il y a un auteur anglais que j'aime beaucoup, qui est un poète et qui a abandonné ses enfants. Et elle m'a dit « You can't win ». Ça veut dire « Vous ne pouvez pas gagner ». Ça veut dire « Ça n'est jamais ». Ça n'est jamais exactement ce qu'on veut ni ce qu'il faut. On fait ce qu'on peut. Je devrais applaudir aussi.